Bonjour, bienvenue. Si vous nous rejoignez, il est pile 9h temps universel, 11h ici à Paris.
Charlotte Idrac.
Et à la une de ce journal, la Syrie, 6 mois tout juste après la chute de Bachar el-Assad, les nouvelles autorités face à d'immenses défis, notamment pour fédérer les communautés. Reportage à suivre sur la côte à Latakié, fief de la minorité alaouite. Les dirigeants du monde attendus à Nice, dans le sud de la France, pour la conférence de l'ONU sur l'océan, avec un grand absent, les États-Unis, pourtant premier espace maritime mondial. À suivre aussi aujourd'hui, élections locales, mais scrutin test dans 2 villes de Serbie, le premier depuis le mouvement de contestation qui agite le pays. Et puis ça va être un bon dimanche pour les fans de tennis, promesse de Carlos Alcaraz avant son rendez-vous en finale face au numéro 1 mondial Yannick Sinner au tournoi de Roland-Garros. Mais d'abord, cette annonce de l'armée russe qui dit attaquer la région ukrainienne de Dnipropetrovsk dans le centre-est du pays. Une première en plus de 3 ans de conflit dans cette région bordant celle de Donetsk. On y reviendra dans nos prochaines éditions. Une fuite, la chute et un pays à reconstruire 6 mois après la fin du régime de Bachar el-Assad en Syrie. C'est une nouvelle page qui s'est ouverte avec la transition menée par Ahmed al-Sharam entre espoir, promesses d'ouverture, des craintes aussi, notamment des minorités, d'autant que des groupes loyalistes à l'ancien régime n'ont pas dit leur dernier mot et continuent d'appeler à la contre-insurrection armée, notamment sur la côte où les attaques contre la communauté alaouite sont fréquentes. Reportage de notre correspondante Manon Chaplin.
Ahmad, membre de la sécurité générale, attrape sa kalachnikov, puis jette des regards inquiets autour de lui. Au loin, des tirs résonnent en écho dans les montagnes alaouites, des bruits sourds devenus quotidiens depuis ce checkpoint, monté à l'entrée du village d'origine du clan Assad.
Ce sont les loyalistes au clan Assad, c'est la plus grosse menace aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui se cachent dans la région. Ces tirs, c'est fréquent, ils ciblent les civils, les points de contrôle.
Depuis la chute du régime de Bachar el-Assad, ils sont des centaines à préparer une contre-insurrection près de la côte, à se cacher dans les montagnes, les fermes et les maisons.
On a un service de renseignement qui travaille activement pour les rechercher, pour suivre leurs mouvements. On fouille régulièrement la région et on trouve tous les 2 ou 3 jours une cache d'armes. Car oui, ils ont beaucoup d'armes.
Ahmad poursuit. 40 membres de la sécurité générale ont été tués dans ce village ces derniers mois. Nada et Walid, eux, sont journalistes alaouites, opposants de longue date au régime de Bachar el-Assad et victimes de 10 tentatives d'assassinat.
Ils ont essayé de me tuer ici il y a un mois. Ils ont tiré en direction de mon bureau. Je me suis mise à terre. Puis la sécurité générale est arrivée. Ils ont également filmé ma maison, mis mon adresse en ligne. Depuis, j'ai peur.
Soudain, de l'autre côté du mur de leur bureau, une explosion, des tirs. Le visage de Nada se crispe, devient livide. « Cache-toi, glisse-t-elle à Walid. Peut-être viennent-ils à nouveau nous chercher. » À l'attaquer, Manon Chaplin, RFI.
Le Grand Bleu, à Nice, dans le sud de la France, en cette journée mondiale des océans, journée d'autant plus particulière à la veille de la grande conférence de l'ONU sur les océans. Les dirigeants du monde entier sont attendus à Nice dès ce dimanche, avec un grand absent, les États-Unis, qui n'envoient pas de délégation fédérale, Pauline Glaise.
Les États-Unis ont le premier domaine maritime au monde. Leur absence à la conférence des Nations Unies sur l'océan peut donc difficilement passer inaperçue. Mais des élus locaux américains ont pris part au sommet des villes côtières. Christian Estrosi, le maire de Nice, leur a adressé un message à peine voilé.
Et si des grands pays n'ont pas voulu venir à l'UNOC, ils sont représentés ici aujourd'hui, à travers chacune et chacun d'entre vous.
L'administration Trump a aussi procédé à des coupes drastiques dans les budgets de l'Agence américaine d'observation des océans. Alors Latoya Cantrell, maire de la Nouvelle-Orléans, a pris moins de pincettes.
Je sais qu'il y a un éléphant dans la pièce. Je dirais que c'est l'incertitude qui nous vient des États-Unis d'Amérique. Mais je veux dire par ma présence et celle de notre honorable John Kerry que les États-Unis, les citoyens sont solidaires. Mais cela va passer par les gens, les relations personnelles. C'est pour ça que je suis ici.
And that's why I'm here.
Latoya Cantrell appelle l'audience à donner de la voix.
Le peuple des États-Unis peut vraiment entendre les voix qui viennent de la société mondiale. Nous avons plus que jamais besoin de ces voix parce que c'est en elles que nous devons aussi sentir le courage.
Après le premier retrait des États-Unis de l'accord de Paris, des États et des villes s'étaient engagés à agir pour le climat à leur niveau. Pauline Glaise, Nice, RFI.
Les États-Unis, où Donald Trump envoie l'armée, en Californie, environ 2000 hommes de la garde nationale. Mesure exceptionnelle alors que des affrontements opposent ces derniers jours les forces de l'ordre à des manifestants opposés aux arrestations de migrants à Los Angeles. Mesure contre l'anarchie, dit la Maison-Blanche. Le gouverneur démocrate de l'État dénonce, lui, une décision volontairement incendiaire. Parallèlement à Washington, la capitale fédérale américaine a accueilli hier la World Pride, événement mondial pour les droits des LGBTQ+, marche des fiertés toute particulière cette année, en pleine offensive du président Trump contre la diversité. Édouard Maille.
Le mois de juin, à peine démarré, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth a ordonné à l'armée de renommer le navire Harvey Milk. Harvey Milk était un vétéran de l'armée et premier élu ouvertement homosexuel en Californie, une mesure plus que symbolique alors que démarrait le mois des fiertés. D'autres mesures prises par le gouvernement ces derniers mois visent à éliminer les programmes pour inclure les personnes LGBTQ+, programmes privés ou publics dits de DEI, diversité, équité et inclusion. Mais la plus grande partie des politiques vise les personnes transgenres. Le gouvernement ne reconnaît désormais que deux sexes, masculin et féminin, des interdictions mises en place pour devenir militaire. Le gouvernement a également coupé les financements des hôpitaux qui permettaient aux personnes de moins de 19 ans de recevoir des chirurgies de réaffirmation de genre ou des traitements hormonaux. Des politiques qui ont eu un effet sur la World Pride à Washington, avec une plus faible participation que prévu. Certaines organisations internationales se sont dissociées de l'événement, soit par boycott contre Donald Trump ou en déconseillant à certaines personnes LGBTQ+, de se rendre aux États-Unis. Édouard Maille, Atlanta, RFI.
Les États-Unis qui dénoncent la responsabilité de la gauche en Colombie après un attentat qui a visé un sénateur colombien de droite prétendant à la prochaine présidentielle prévue en Colombie en 2026. Miguel Uribe, blessé par balle à la tête en plein meeting. Il a subi là avec succès une première intervention chirurgicale mais reste dans un état critique selon le maire de Bogota. Selon la police, l'auteur présumé de l'attentat est un mineur. Jour de douleur, a dit le chef de l'État, Gustavo Petro, qui a promis des enquêtes approfondies. Une récompense d'environ 725 000 dollars est promise pour toute information sur les responsables. Un test en Serbie ce dimanche avec des élections municipales dans deux localités, donc simple élection locale, mais premier scrutin depuis le vaste mouvement de contestation qui secoue le pays. Un test donc pour mesurer le rapport de force entre le puissant en partie du président Aleksandar Vučić et une liste indépendante de candidats soutenus par les étudiants. Jelena Tomić.
Tous les regards sont rivés sur Zaječar, ville à l'est, et Kosjerić, une petite localité située à l'ouest de la Serbie, où 56 000 électeurs au total vont élire leurs représentants pour les quatre prochaines années. Ces élections ont valeur de test aussi bien pour le parti au pouvoir que le mouvement étudiant, qui après plus de six mois de manifestations anticorruption massives, réclame désormais des élections législatives anticipées. Des élections rejetées à ce stade par le président Aleksandar Vučić, et dont le parti SNS sera pour la première fois défiée au niveau local par une liste unifiée soutenue par les étudiants et composée de candidats indépendants, de membres de l'opposition et de nouveaux venus en politique. L'ONG Crta a enregistré de nombreux incidents durant les campagnes électorales dans ces deux villes. Les pratiques normalisées d'achat de voix et de propagande se sont étendues à des violences verbales et physiques contre des militants de l'opposition, des journalistes et des citoyens de Zaječar et Kosjerić. De nombreux groupes de la société civile ont appelé à une mobilisation citoyenne d'ampleur pour empêcher les manipulations électorales et les intimidations des électeurs.
Un nouveau duel prometteur cet après-midi sur la terre battue de Roland-Garros avec les deux premières têtes de série du tournoi. Le tenant du titre Carlos Alcaraz face au numéro 1 mondial Yannick Sinner. Les deux joueurs se sont déjà affrontés 11 fois, mais c'est la première en finale d'un grand chelem. Rendez-vous à partir de 13h, temps universel. Et puis au programme sportif aussi. aussi le foot. La finale de la Ligue des Nations Portugal-Espagne à Munich, coup d'envoi 19h TU. Et ce sera à suivre en intégralité sur RFI, bien sûr, pour l'heure. Grand reportage, le supplément, bonne émission, à tout à l'heure.